Chers auditeurs et amis de la poésie vivante, bonsoir. Pour cette troisième émission de la Poémière, ce soir en compagnie de notre ami Paul Corseul, nous avons le grand plaisir d'accueillir René Hervieux, poète, plasticien, écrivain, pourrait-on dire, qui réside à Montauban. Bonsoir René.
Bonsoir.
Bonsoir René.
Bonsoir Fernand.
Bonsoir.
Nous savons René que tu es poète, grand poète peut-être, mais pour toi, qu'est-ce que la poésie ?
Oui, alors poète, comme disait Ubu, enfin en utilisant un R de circonstance, poète c'est plus c'est les autres qui vous disent poète, c'est un peu comme personne ne se revendique de la place de sorcier, je crois que la poésie, les poètes c'est un petit peu la même chose, un jour ou l'autre comme ça, ça vous tombe un peu sur la tête et on dit vous êtes poète quoi. Mais je peux donner une autre forme de réponse en proposant un texte en définitive qui s'appelle Emeraude. La poésie ne s'improvise pas sous le galop cadencé des chevaux. Elle s'impose comme les mains. La poésie ne rôde pas sous les ponts obscurs des nuits sans lune. Elle s'infiltre. Invisible perfusion secrète. Elle s'arroge le droit de circulation du sang et prend corps par surprise. Sans se soucier des aciéries, ni des ossements astucieusement assemblés en carnage. La poésie se fait dans un livre ouvert, près d'un ruisseau où les corps se délient, où les yeux se dénouent, hors des traces orbitales auxquelles est confiée la durée de vivre. Elle se réifie dans l'attente, aux marges inattendues qu'un fil rouge inscrit sur la peau. La poésie ne se développe pas aux étalages chatoyants que les rues agglutinent. Elle ne se nourrit pas des sanglants ersatz donnés en pâture sur le sable des arènes. Elle coule dans les artères marines, dans les replis cuivrés du souffle, dans l'arc assoupi du désir qui s'affûte pour l'incandescence. Elle rampe loin des magazines et des fumées, dans la chevelure fluide vouée au miroir, dans la trace sifflante du serpentaire enlaçant l'Amazone. Elle exulte, adossée au tremblement amoureux. Elle crépite, résurgence du déclin de l'âme, fragrance d'un velin de flamme, cendre brûlée, livrée aux vents et aux marées. Elle s'abîme, dans le sillage du tigre et dans le feulement du rocher. Elle s'épure en cascade de frêne, en éclisse, dans le noir des ballastes qui rougeoient sous les trains de nuit. Elle gravite en suspension entre sueur et cosmos, clignant des yeux au centre d'inconnues constellations, dont je ferai mon rivage, grandeur nature, quand tu viendras.
Un vrai manifeste, en quelque sorte. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qui t'a amené à écrire ?
Oui, je crois que au départ, il y a eu la lecture de livres de poésie, enfin, au-delà, enfin, de ceux qu'on appelle les récitations, enfin, dans le cadre officiel de la scolarité. Donc je suis allé chercher un petit peu plus loin. Bon, et c'est vrai que des gens comme Rimbaud, Baudelaire m'ont attiré. Rimbaud peut-être plus, et Baudelaire plus tard, parce que la construction est peut-être plus complexe. Après, il y a eu effectivement des gens comme Paul Éluard ou Aragon, vers lesquels je suis allé. Et puis il y a eu la rencontre avec un prof de français, qui n'était pas mon prof de français, mais avec lequel on faisait un certain nombre de choses comme ça, et en particulier la création d'un ciné-club, enfin dans un petit port où je suis né, qui s'appelle Grandville, dans la Manche, Et il se trouve que ce prof de français faisait partie du groupe, du dernier carteron, on va dire comme ça, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais enfin groupe de surréalistes. Du
dernier carré.
Oui, le dernier carré, c'est ça. C'est plutôt ce terme-là qui est juste. Et qui, donc, renvoyait encore André Breton, puisque André Breton n'était pas encore décédé. Et on a été amené, enfin, il m'a invité, avec quelques autres amis bretons, des bretons du groupe surréaliste de Bretagne, voilà. Et on a commencé un petit peu à faire des séances d'écriture automatique, puisque c'était un petit peu un des points de départ, hein. Breton d'Esnos Soupeau, hein, voilà, pratiquait beaucoup ça. Et il s'appelait Hervé Delabarre, il s'appelle toujours comme ça, il est encore vivant. Et il vit à Saint-Malo. Et j'ai été amené comme ça, enfin, il m'a amené à découvrir, au fond, à aller chercher un petit peu au fond, du côté de l'inconscient, comme ça, puisque l'écriture automatique, c'est ça que ça révèle. Il y a cette spontanéité, et puis après, bon, voilà, on voit. Et là, j'ai découvert aussi, il m'a fait découvrir d'autres auteurs, hein, comme Benjamin Perret, Antonin Artaud, Octavio Paz, Aimé Césaire. Et ça, pour moi, ça a été des phares, comme dit Baudelaire, quoi, hein, des éclairs de lumière qui m'ont effectivement, non pas amené à écrire, mais à écrire de cette manière-là et à écrire cette poésie-là. Voilà, j'écrivais déjà un petit peu antérieurement, mais des choses plus scolaires, plus classiques, des choses rimées, etc. Et là, ça m'a ouvert effectivement la voie de l'écriture de poésie qu'on appelle en vers libre, hein, maintenant, voilà.
J'avais une question, René, je voulais te demander, à quel âge tu as commencé à écrire ?
J'ai commencé à écrire assez tôt, effectivement, vers l'âge de 15 ans. On me disait que j'étais en avance, parce que je crois qu'à 4 ans, avant la maternelle, je savais lire. Je lisais le journal Ouest-France, dans l'épicerie de mes parents, enfin, dans l'arrière-salle de l'épicerie de mes parents, allongé par terre, comme ça, et bon, voilà. Et pour moi, ça a été très vite lié, quoi, l'écriture, la lecture.
Oui.
Et voilà. Je dirais que c'est, pour en revenir à la poésie et l'écriture poétique, c'est plutôt la poésie qui m'a saisi.
Mmh. Hein, oui.
Un petit peu comme la marée montante prend le pêcheur sur la grève ou sur le quai. Ou, voilà.
La marine.
Donc je suis entré en poésie comme on entre en mer, enfin, comme dirait Renaud, je crois.
Et je voulais te demander, pour toi, quels sont les grands thèmes qui inspirent ta poésie, enfin, qui t'inspirent pour écrire, ou est-ce que c'est le contraire, tu écris et après les thèmes sont là, je ne sais pas.
Oui, il y en a plusieurs. Hein. Je crois que le premier, ça a été, c'est lié à mon enfance et à la manière, au lieu où j'ai passé mon enfance. Je parlais tout à l'heure du ce petit port de commerce à l'époque qui est devenu maintenant un port de plaisance, mais ça ne l'était pas encore dans cette dimension-là à cette époque. Hein. C'était dans les années 55-60, quoi, voilà. Et mon horizon, je crois que ça a été toujours un horizon maritime, quoi. Un horizon de sable, de rocher, mais où la mer est sans cesse recommencer, comme disait Paul Valéry, quoi, finalement. Et j'aimais à la fois être dessus et aussi dedans, quoi. Donc, j'étais assez bon nageur à l'époque. Et je crois que l'horizon marin, donc Granville, Tenfas, Cancale, le Mont-Saint-Michel, etc., tout ça, un petit peu, je crois, m'a imprégné mon regard, au fond. Hein. Et c'est traduit dans ce que j'écrivais assez rapidement. Ensuite, bon, j'ai d'ailleurs un recueil, hein, qui a été publié dans les années 74, qui a obtenu une récompense à Saint-Malo, justement. Ah oui. Juste au retour des choses, en définitive, quoi, et qui s'appelle le prix Georges Perros, voilà, hein, ouais. Et c'est un recueil qui s'appelle Équinoxe, hein, donc Équinoxe, c'est le cycle des marées, quoi, hein, voilà.
Mais ce que je vois aussi dans ta poésie, c'est qu'il y a, il y a des références récurrentes à oui. la mer, l'eau, dans sa profondeur aussi. On a l'impression d'atteindre un peu, de toucher des surfaces inconscientes. Tu vois, oui, des choses vraiment. Qui sont en dessous.
Oui.
Le premier poème qui va être lu, j'ai l'impression d'être dans le monde avant le monde.
Oui, ça s'appelle Russe large.
Oui, ouais, voilà.
C'est ça, oui.
Et j'ai l'impression qu'on est dans cette perception d'un monde d'avant le monde. Comme si tu nous faisais un poème. Enfin, pour moi, c'est ça. Peut-être pas pour toi. J'ai l'impression que c'est le poème que tu aurais écrit quand ta mère t'attendait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, ce poème.
Non, on peut le voir comme ça, effectivement. Bon. c'est peut-être effectivement un retour aux sources ou un retour à la Renaissance. Bon, il se trouve que mon prénom, c'est René, donc je crois qu'on n'est jamais... Ah, le prénonymat, ça existe, on n'est jamais prénommé... gratuitement comme ça par les parents. On m'a appelé René parce que j'avais un oncle qui pendant la Deuxième Guerre mondiale était à bord d'un sous-marin comme chef mécanicien je crois et qui a été dont le sous-marin a été torpillé par les navires allemands au large des côtes d'Afrique. Et donc moi j'ai eu à porter effectivement ce prénom-là de quelqu'un qui était disparu quoi, au fond. Alors, disparition, renaissance, porte-parole, au fond, peut-être aussi, au fond, hein, de tout ça, de d'une histoire familiale, hein, sans doute, quoi. Mais je pense que le surréalisme a élargi cet horizon marin, quoi. Et il y a d'autres thèmes qui m'ont beaucoup intéressé. Les deux grands axes principaux développés par les poètes surréalistes, hein, c'est-à-dire l'amour, le désir et aussi la révolte. Hein. Il y a des revues surréalistes qui s'appelaient, une revue qui s'appelle le surréalisme au service de la révolution, etc. Donc je me sentais à la fois impliqué aussi par, je ne dirais pas que c'était un engagement à l'époque, puisque j'avais entre 18 et 20 ans à ce moment-là.
Ouais.
Bon... C'est un axe qui m'a quand même préoccupé parce que j'étais d'un milieu modeste. Enfin, mes parents, ma mère tenait une petite épicerie de quartier, donc dans cette ville portuaire, ce petit port de commerce. Mon père était employé de commerce par ailleurs. Et il y avait autour de moi un univers. Évidemment, maintenant, ça peut paraître curieux parce que l'émigration est devenue phénomène social très élargi. Moi, j'ai côtoyé des dockers espagnols, l'épicerie de ma mère était une sorte de théâtre comme ça, parce que un certain nombre de gens venaient, puis on développait des discussions comme ça. Je me souviens d'un Russe blanc qui avait fui la Russie salinienne, hein, de l'époque, et qui était docker, avec lequel, enfin, qui m'apprenait un peu le russe comme ça. Et qui, avant de mourir, enfin quelques années avant, m'a offert, enfin c'était quand même un sacré cadeau, m'a offert Guerre-et-Paix dans la Pléiade de Tolstoï. Il m'a légué ce truc-là, qui est assez fort quand même. Alors quand je dis théâtre, parce que l'épicerie était entourée de deux cafés. Hein, alors il y avait un café un petit peu plus où se voyaient les joueurs de cartes un petit peu plus aisés, puis l'autre café qui s'appelait le Wagon, qui s'est appelé ensuite le Wagon. Qui était tenu d'ailleurs par des Espagnols de deuxième génération. Hein. Et il y avait cet aspect théâtre, parce que tout au bout de la rue, qui s'appelait la rue des Quais, ça ne s'invente pas hein, non plus. On faisait d'ailleurs, enfin je ne sais pas si je peux le dire là, mais une contrepétrie sur la rue des Quais. Vous devinerez, vous chercherez. Et tout au bout de la rue, il y avait le bar à pute. Excusez-moi encore d'utiliser un terme un peu... pas brime-sautier, mais enfin bon, un peu vulgaire. Mais c'était, qui s'appelait le Monico, enfin voilà, qui était tenu par un arbitre de boxe et un peu, très monégasque, et comme l'étaient peut-être les monégasques et ensuite les siciliens ou autres, enfin voilà, mais enfin bon, il est mort, paix à son âme. Et alors il y avait toute cette faune là, comme ça, et les copains de quartier, puisque moi j'étais fils unique. qui m'ont entraîné dans une dynamique de la bande, puisque en 46, 47, 48, comme ça, c'était un peu le boom d'après-guerre, quoi, hein, quand je suis né. Donc il y avait toute une bande de copains comme ça, où on était à la limite voyous, quoi.
Ouais, côté, ouais, à essayer des choses.
Un peu apache, comme dirait Prévert, enfin, et d'autres, hein, voilà, qui nous a amené à commettre quelques larcins, qui ne figurent pas sur mon casier judiciaire, mais bon, ça allait du vol de canif jusqu'au vol de voiture, enfin voilà, bon. Et puis ensuite, ben, évidemment, le collège, le lycée, m'ont amené à fréquenter des copains, des amis qui étaient de milieux beaucoup plus bourgeois, des fils de banquiers, des fils de médecins, etc. Et moi, j'avais un peu, j'étais un peu entre deux chaises, comme ça, là. Donc, ça a été un peu cornélien pendant mon adolescence, quoi. Voilà. Mais pour expliquer le fait que ce thème de la révolte, c'était pas complètement gratuit pour moi.
Oui.
Parce que j'avais certainement, précocement peut-être, ou du fait de cette situation-là, un sentiment d'injustice sociale. Il y avait des gens très lumpen prolétariat, des gens qui crevaient dans la misère, enfin, à côté de chez moi. La première rencontre de la mort, moi, ça a été une femme alcoolique de, je sais pas, 55 ou 60 ans, que j'ai trouvée en allant lui porter ses commissions et que j'ai découvert par terre sur le palier, morte de coma éthylique, j'imagine. Enfin, à l'époque, je n'appelais pas ça comme ça. Hein.
Oui.
Ça fait drôle quand même, quoi. Hein, voilà.
Et dis-nous, parle-nous un peu de ton côté plasticien. Je sais que tu es, on va dire, fabricant d'objets extraordinaires, de collages, de montages, de boîtes, de décors, dans toute une expression plastique.
Oui, alors j'ai commencé par faire de la peinture, mais je suis complètement autodidacte à ce niveau-là. Ce qui fait que bon, bah ça m'a certainement été moins facile que d'autres. J'étais très mauvais en dessin au collège. Et puis donc je suis venu un petit peu à la peinture là quand j'ai eu une vingtaine d'années, etc. Ça m'a attiré aussi. Puis ça, je voyais un lien moi entre comment dire la démarche comme ça de créativité picturale.
Oui.
Faut fabriquer des images aussi, quoi. Et puis, comme j'étais pas très doué, j'ai commencé par faire des collages. Bon, ça, c'est un petit peu l'influence le Prévert dont j'avais vu un certain nombre de productions. Prévert qui a eu une production de collages absolument astronomique. Et là aussi, enfin, où l'inconscient parle beaucoup, hein, chez Prévert, quoi. Et cette espèce de, et ça nourrit mon imaginaire, en fait, voilà. Ça nourrit mon imaginaire de cette diversité de mettre ensemble des choses qui, a priori et logiquement, ne sont pas faites pour aller ensemble. C'est-à-dire d'assembler quelque chose qui n'est pas forcément assemblable d'emblée dans la logique rationnelle et cartésienne, on va dire comme ça. Sortir effectivement du, bon, peut-être pas du carcan, mais ça c'est pour jouer sur les mots, du carcan cartésien, quoi.
Et dans tes boîtes, c'est intéressant parce que tu as souvent, enfin, fréquemment des clés. Et j'ai l'impression que dans ta poésie aussi, il y a des ouvertures vers la fin des poèmes. On va vers autre chose. Il y a une sorte d'ouverture. C'est pas quelque chose de clos, de fermé.
Oui. Il y a des clés et des montres. Enfin, il y a des figurations du temps.
Oui.
Et puis des figurations, effectivement, de quelque chose qui est lié à la question de l'ouverture. Et à mon avis, c'est l'ouverture du sens. Je veux dire, ou de plusieurs sens.
Oui.
Voilà.
On voit ça aussi dans les titres que tu as choisis pour tes boîtes, qui témoignent d'une intertextualité certaine avec le monde littéraire.
Oui, je crois que... Il y a aussi dans ces œuvres-là, moi j'appelais ça des pièces plus modestement, mais d'autres disent des œuvres, donc pourquoi pas. Une notion effectivement d'ouverture, mais qui est liée au thème de l'amour. Je crois que l'essence même du désir, c'est de ne jamais être satisfait. Et que c'est un éternel recommencement, quoi. Donc, c'est certainement quelque chose qui m'a guidé plus ou moins consciemment et avec plus ou moins de maîtrise. Intellectuel ou psychologique, enfin, je veux dire, ça, j'ai laissé faire ça à travers, effectivement, ce mode d'expression. Parce qu'après la peinture, effectivement, j'ai fait plutôt des, après les collages, je me suis mis à mettre, à faire des, ce que j'appelle des boîtes, c'est-à-dire des choses en trois dimensions qui sont vitrées comme ça, et qui ressemblent à ce que un ami à moi qui s'appelle Paul Duchin a appelé les théâtres de l'imaginaire, quoi. Et effectivement, c'était pour moi un support où je pouvais inscrire tout cet imaginaire, où pouvait se rassembler à la fois l'influence de Prévert, de Max Ernst, qui est pour moi un des grands maîtres. Oui. Et alors ensuite, je suis allé plus vers l'ouverture de ces boîtes, c'est-à-dire ne plus vitrer ces boîtes, et en faire des assemblages. Voilà, ça, c'est un petit peu sous l'influence de quelqu'un qui s'appelle Louis Pons, qui est pas très connu, mais qui pour moi est un maître, pas forcément à penser, mais à découvrir, quoi.
Oui. Voilà. Et alors, je voulais te demander maintenant vers quelle sorte d'écriture ou de création vas-tu actuellement, en ce moment ?
Oh, ben je pense que je continue un petit peu sur cette lancée-là. Oui. Peut-être que maintenant, il se trouve que j'ai des copains sculpteurs qui ont estimé que ce que je faisais, enfin, je fais aussi des objets, ce que j'appelle des objets posés, parce que j'ose pas appeler ça sculpture. Je suis pas sculpteur. Moi, j'assemble des éléments. Je travaille beaucoup. Alors là aussi, on rejoint un thème qui m'est cher, qui est celui de la mémoire. Et je travaille beaucoup avec des matériaux qu'on appelle maintenant de récupération, fait Louis Pons, puis plein d'autres, Jeffan de Villiers, enfin des gens comme ça. Et ça me rappelle un souvenir d'enfance très anecdotique. C'est-à-dire pour ce faire, on n'était pas très riches, mais même mes parents, qui étaient malgré tout les plus aisés du quartier parce qu'ils étaient commerçants, mais on roulait pas sur l'or, loin de là. Et j'allais avec mes copains les plus pauvres sur ce qu'on appelait la grève à Granville, et où était une sorte de dépôt de déchets, d'ordures, etc. Oui. Et on allait faire ce qu'on appelait la ferraille. C'est-à-dire qu'on allait gratter comme ça, et on vendait aux ferrailleurs du cuivre, du laiton, j'ai appris à distinguer tous ces différents matériaux, et on se faisait un peu d'argent de poche de cette manière-là. Et donc, il doit y avoir quelque chose qui m'est resté de cette espèce de choses déjetées, rejetées en définitive par la société de consommation qui commençait déjà dans les années 50-60. Et nous, on se disait qu'il y avait là d'abord de quoi se faire un brin de thunes. Et ça m'a certainement, je crois, suivi dans le travail que je fais actuellement. En tout cas, d'utiliser ce matériau. Je vais aussi beaucoup sur les brocantes où je négocie un petit peu avec les brocanteurs, mais ça, c'est mon passage en Algérie pendant 7 ans qui m'a amené un petit peu
forcément.
Sur les sous qu'on n'achète pas d'emblée comme
non,
ça.
Non,
on négocie.
Oui, c'est violent, voilà. Tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Et puis maintenant, nous allons dire Paul Corcel, Fernand Bellac, toi, bien sûr, et moi-même. Et nous te remercions de nous laisser lire tes textes, tes poèmes, qui partent d'un monde souterrain, sous l'onde, qui montre un état de l'humain caché, inconnu, passant par les questions sur ce qu'est être un homme. Je crois que ça, on l'a peut-être pas beaucoup évoqué, mais c'est une question très importante. Et dans notre histoire passée, et allant vers l'amour, coûte que coûte. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci à vous, tous les deux. René. Mes amis. Merci. Ruisselage. Les langes s'empèsent autour d'animaux poisseux. Le mouvement laiteux des murènes masquées sous le lit rieur des torrents développe le rêve tumultueux et troublant des rivières obscures. Sous les herbages humides grouillent des bêtes assoiffées, captant de toutes leurs ouïes les rumeurs de la ville. Elle nage en fresque ombilicale, frôlant parfois l'humain voyage du passager occidental, et dans leur terrier sous-marin attendent, avec une prudence infinie, que la grande lutte soit passée pour reprendre leur équipée et se réjouir des paysages où elles sont nées.
Le teint de la mémoire. Dans nos mémoires se glisse entre vitre et teint l'image presque incolore des visages déjà incertains de ces passagers que l'oubli carnassier tente de dissiper. Sous nos ongles, pourtant, s'effritent encore et à jamais la pierre meurtrie des ballasts et l'acier refroidi des rails de leur pauvre voyage. De nos jours, il est difficile de dormir la fenêtre ouverte. Les cris des enfants qu'on égorge ou que l'on prend pour cible sont encore audibles dans nos chambres bleues. Malgré les antennes dont nous hérissons nos toits, malgré les champs fleuris dont nous tapissons nos murs, le bruissement sourd des guerres ou des massacres passe encore sous nos portes, à l'heure qu'il est avant d'aller dormir.
Je n'ai pas encore tranché avec la vie. J'inspecte au fil des nuits, les lucioles que mes rêves font luire et logent à l'enseigne du chemin vert. J'arpente, affublé de candélabres désuets, des ruelles nocturnes dans des villes inconnues, où des voix passagères muelles, lourdes de terre labourée, sur lesquels des mots germent comme des bulbes effarés. J'inscris sous des néons bleutés que la mort illumine l'espoir folle d'une fraternité que les mains saluraient sur les pierres. Je me découvre dans des clignements d'yeux que les miroirs multiplient au fond d'armoires délaissées où des costumes de scène abandonnés ne demandent qu'à être habités, rutilant encore de toute leur mémoire. Je tente encore l'envol futile et dérisoire qu'un oiseau moqueur nargue de son aile agile. En moi, entre les cliquetis lugubres dont le corps fut armure, j'affûte l'osier, le frêne, l'érable, je laisse le rosier. Nidant sous mes paupières, broder sa dentelle d'épines pour que mon regard saigne en s'ouvrant sur le monde, rendant impossible toute innocence.
Prélude à une apocalypse selon Saint-Elme. Aux sources pourpres où s'avancent les fleurs de lave, se glisse, entre les arbres déchiquetés, la lavandière de la nuit. D'un pas lent, claudiquant, elle arpente les berges insolites du fleuve, où d'étranges murènes lissent leurs fourrures mouchetées. Dans le lointain sonne un tocsin dont des villageois en haillons tentent de draper leurs épaules affaiblies. La mer, jonchée d'obus à la dérive, recoud d'écume ses ourlets, à même l'écorce du monde. Des bêtes mugissent en son ventre, au long d'insondables failles calcinées, où se rident des navires désossés, des galions éventrés, des barques blessées. Au plus épais de l'eau, une canonnière lointaine, tout feu éteint, longe l'horizon comme une forteresse vide. Quelques lueurs pâles sillonnent le ciel délabré, craquelé comme une toile ancienne. Un navire arachnéen sur le visage féminin du monde. Au fond d'abris caverneux, creusés dans la montagne volcanique, des serpents audacieux brillent de toutes leurs volutes enlacées, incrustant de leurs mues rouges et or la peau scarifiée de la terre. Quelques divinités surgissent comme passent les étoiles voyageuses, striant la voûte éteinte de leur lueur falote. Une troupe de saltimbanques, affublée de minces singes moqueurs, rassemble sur une place dallée, envahie d'herbes sèches, un public délétère et géniard. Des sphinges, regroupés en troupeaux, trouvent l'air de leurs regards balsamiques, laissant des traces incandescentes au duvet tourmenté des nuages, où des femmes accroupies et muselées trônent comme des lampes vacillantes. Sous l'œil de réverbères blafards, près de trottoirs écartelés, des enfants se disputent, les vestiges de tanks figés, prisonniers de lianes et des armes infécondes que la rouille dévore comme une lèpre et qu'il se passe de main en main. Aux franges du cratère ludique, une tribu de salamandres danse en cascade un ballet moiré sur les flancs bouillonnants où la montagne éructe. Un défilé de veuves voilées d'ébène vénère la rituelle éruption et Casanova meurt pour une ultime fois. À genoux dans ses frasques, implorant l'improbable pardon. Dans sa cape d'anthracite, la mort rit en sourdine et, décharnée, laisse le long des sentes, entre des fumerolles bleutées, l'empreinte de son incisive astragale. Sur son épaule, un toucan fou, multicolore, se rêve Quetzalcoatl, et les yeux béants sur le vide, jacasse à tue-tête. Demain, c'est la guerre! Dans un trou sombre, aux volettes des aiglons affolés, un phénix aux abois cherche en vain un havre prométhéen pour nider.
Quand l'eau en aura fini avec son travail de titan sur la roche, quand la mer aura renoncé à son inlassable ouvrage d'invasion sur la terre nourricière, quand des lacs auront vu sur l'ultime rideau de Seine des montagnes sempiternelles, j'accepterai de m'asseoir sur quelques pierres rondes et rugueuses, attiédies à force d'insomnie sous les nuits de pleine lune. quand les fruits, gorgés comme des outres, pleines des ondées incessantes et têtues, dont les saisons fluviales abreuvent les sols asséchés, en seront au terme de leur chute inquiétante. Quand l'ours, le grizzly, le cerf, le renne, l'Oregon, le wapiti seront las de leurs pas alourdis, maintes fois fichés dans l'humus ou la glèbe. Je viendrai m'asseoir à nouveau à la table de palabre, sous l'arbre millénaire, aux cimes touchant le ciel, où l'Ankou mène la danse macabre et dispose le festin funèbre où nos os, polissés et entachés de rouille, seront alignés comme autant de couverts pour le dernier banquet. Quand la lampe, où suinte la substance ténue, le suif de tes larmes éteindra ses flamèches lugubres luminaires au pied des grottes inhabitables, orifices entr'ouverts sur les fonds ténébreux. Je chercherai, avec des ruses animales, la place qu'on me laissera pour partager sans retenue la parole et le sang. En attendant que viennent ces lunaisons diaphanes où tu seras une ombre et moi un spectre exsangue aux yeux troués. En attendant, je marche. Et l'eau argentée et vivace, bien plus que mes cheveux, lèche le creuset de mes mains quand j'ai soif, ou ruisselle sur la boule osseuse de mon crâne amoindri quand la boue en lambeaux a recouvert ma peau. Je suis debout, et ma voix reste traversière face au ciel où des loups noirs pourchassent des troupeaux de nuages et crépitent, cherchant d'improbables habits d'hommes. Je me dresse et me hisse au-dessus des marais, des forêts sumériennes jalouses de leurs immortelles frondaisons. Je marche, et toi, mon amour, mon fils, mon camarade, face au vent arrogant qui nous érode, tu marques sur la roche intraitable les signes étranges qui ont préludé à notre imprévisible rencontre.
Le ciel sur la tête. La mémoire du rêve est une pluie d'étoiles que l'on chasse un matin d'un revers de la main. Un soir de vague à l'âme, m'exposant un peu trop aux averses filantes, ruisselant sous cette eau fertile et rutilante, le ciel en son entier m'est tombé sur la tête comme l'écume des jours. Empêtrée dans l'étoffe noire, lourde et pesante de cette nuit tombante, j'ai cherché une issue. Le ciel était humide et incertain. J'ai froissé tous les plis du velours assassin, lissant toutes les moires et fouillant ma mémoire, j'ai trouvé la sortie. Un fin point minuscule par où le jour entrait, une tête d'épingle, un trou d'aiguille. Ariane, sans doute, en passant par ici, avait raté son coup, et d'un geste indécis, crevé par maladresse, s'étoyait dans le firmament. en ouvrant grand le mien, contraignant ma paupière, j'ai cru voir percer au céleste Judas une faible lumière. Peu de choses pourtant, l'œil d'un maigre hibou, l'iris blessé d'une taupe ou d'un noir marcassin. Mais ma main voyageante, scrutant toute la voûte, était-ce celle impalpable du ciel ou le trop vieil argent terni de ma mémoire? J'élargissais ce chat jusque aux galaxies et modifiais le piège dont j'étais prisonnier. Cet infime orifice à portée de regard, ce point si dérisoire dans l'enveloppante toile par où je suis sorti, c'était l'or de l'étoile. Et je bus l'infini.
Bas les masques. Nous ne tenons pas commerce d'épicerie. Ce que nous pratiquons dans nos jardins bas les masques. Nous ne tenons pas commerce d'épicerie. Ce que nous pratiquons dans nos jardins suspendus n'est rien d'autre que le très ancien système du troc. C'est simple comme bonjour. Nous échangeons nos regards et nos habits de peau dans lesquels nous nous sentions trop à l'étroit. Et si les esprits bien pensants viennent nous demander des comptes, nous leur ouvrirons le grand livre blanc de tes seins. Ils verront qu'il n'y a rien à cacher. Tu leur feras le total de tes blessures. Ils n'auront qu'à te croire sur parole, car tu as toujours payé rubis sur l'ongle et jade sous les paupières. L'incident de tes yeux sera vite clos, et nous pourrons, rideau tiré, reprendre notre envol de baisers, l'étreinte au poing, à jamais dégantée dans le sillage argenté de tes cuisses ouvertes sur l'inconnu. Tu peux sourire tranquille. Nous n'avons rien à déclarer, sauf, peut-être, le paradisier de ta chevelure, visible par tous à l'œil nu. Tu peux sourire tranquille.
Merci à toi, René Hervieux, pour cette rencontre et pour ta poésie et les formes d'art que tu développes.
Ben, merci à vous, tous les deux.
Les auditeurs se souviendront longtemps de ton passage, René Hervieux, et ils chercheront à se procurer quelques opuscules, quelques éditions.
Oui, ben, on peut mentionner là un texte en prose, par contre, sur le thème de la mémoire, qui a été publié aux éditions Réciproques, qui s'appelle « Il faudrait dormir », qui est un ouvrage, un récit onirique sur la mémoire des déportés, au sens large du terme, hein, les juifs, les tziganes, les homosexuels, etc. Et les politiques, voilà.
Et nous voici à la rubrique Poésie et jeu, poésie humoristique, pastiche. Comme la fois dernière, nous allons jouer à vous proposer un petit poème mis en forme à la manière d'un grand poète. À vous de le trouver. Dès que vous l'avez trouvé, vous téléphonez à CFM.
Alors Fernand, n'oublie pas de dire que lors de la dernière émission, tu nous avais fait un pastiche et que personne n'a trouvé, même moi, je n'ai pas trouvé. Il s'agissait donc de Guillaume Apollinaire.
Quand je fais un tour là où tu crèches, ou que la voûte fait le gros dos, au lit du ciel, la chair est fraîche, quand les bourgeois font leur dodo. Ma frangine étoile, ma maman, tu me refiles ton rencard sous le sommeil exactement. Au coin de la voix et du milk bar. L'accordéoniste y a semé tous ces petits boutons de nacre, grains de java, joints de camé, qui escarbillent pour ton sacre. Les piaffes de nuit viennent y becter les étincelles que tu leur jettes. les mots d'amour qu'on a causés et les reflets de mes lunettes. La baladeuse des quatre saisons, en passant sur les rails du tram, y a perdu sa monnaie et son plus précieux cajou de diam. Le ciel s'en fout, le ciel s'en tape que la lune, elle aille toute nue. Le ciel, c'est Marlou qui se sape au bec de jazz de l'avenue. Mais quand le soleil ramène son rouge pour m'en jeter un, plein les yeux, je range mon noir, je replie mon rouge. Bonsoir, mesdames. Bonjour, messieurs.
Eh bien, si vous avez trouvé la réponse, téléphonez à CFM et laissez un message, ou bien, si vous avez quelqu'un, vous donnez la réponse au 05 63 67 03 57. Je répète, 05 63 67 03 57. Merci. Et ce soir, nous avons avec nous Emma Delzar qui a eu la gentillesse de venir. Merci Emma. Et tu vas nous parler et nous lire des poèmes de García Lorca, c'est ça ?
Oui.
Tu veux bien nous parler un peu de sa poésie ?
Bien, je vais en parler très brièvement. Je pense que vous préférez écouter les poèmes. Federico García Lorca, je l'ai fréquenté très jeune parce que papa avait une grande tendresse pour lui. Et il nous glissait toujours des livres de poèmes de Federico. Ce que j'aime chez ce poète, c'est sa fraîcheur d'enfant, son âme d'enfant. Il a une sensibilité, une profondeur, il a un sens du tragique, une musique, des mots, on retrouve là le musicien, puisque Federico García Lorca a longtemps hésité entre le choix d'une carrière littéraire et le choix d'être soliste, puisque c'était un très grand pianiste.
On retrouve
ce sens de la musique dans sa poésie. D'ailleurs, dans le poème que je vais vous lire en premier, il y a des répétitions où l'on retrouve un peu le flamenco de son Andalousie natale. Voilà.
D'accord. Merci.
Je vais demander à Fernand de nous lire la traduction.
Allez,
si vous voulez, et après je lirai le poème en espagnol.
D'accord. Dans cet extrait du Romancero Gitano.
Oui, je peux dire que le Romancero Gitano a été composé, je crois, entre 1924 et 1928. Et que le Romance de la Luna Luna est le premier poème de ce recueil. Voilà.
En français, voilà ce que ça pourrait donner. Romance de la Lune Lune. La Lune vint à la forge avec ses volants de nard. L'enfant, les yeux grands ouverts, la regarde, la regarde. Dans la brise qui s'émeut, la lune bouge les bras, dévoilant, lascive et pure, ses seins blancs de dur métal. Va-t'en, lune, lune, lune. Si les gitans arrivaient, ils feraient avec ton cœur bagues blanches et colliers. Enfant, laisse-moi danser. Quand viendront les cavaliers, ils te verront sur l'enclume, étendu, les yeux fermés. Va-t'en, lune, lune, lune. Je les entends chevaucher. Enfant, laisse-moi. Tu froisses ma blancheur amidonnée.
Romance de la Luna Luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardo. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. ¡Huye, luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. Un deuxième très court poème de Federico García Lorca, Memento.
Memento, quand je mourrai, enterrez-moi avec ma guitare sous le sable. Quand je mourrai parmi les orangers et la menthe, quand je mourrai, enterrez-moi si vous voulez avec une girouette quand je mourrai.
Memento. Memento. Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierbabuena. Cuando yo me muera, enterradme si queréis en una veleta. Cuando yo me muera.
Maintenant, deux haïkus japonais qui ont été écrits par Matsuo Basho et qui est un poète très connu au Japon. Malheureusement, nous n'avons pas le japonais, on ne peut pas vous faire écouter le japonais. Mais Françoise et Yvette vont vous lire ces deux haïkus en français. Dégustez bien.
Gel de nuit. Je me réveille, ma cruche éclate. Gel de nuit, je me réveille, ma cruche éclate.
À la pleine lune, la marée haute arrive jusqu'à ma porte. À la pleine lune, la marée haute arrive jusqu'à ma porte.
Bien chers auditeurs et amateurs de poésie, de musique et de mots, nous vous quittons en espérant que cette émission de la Poémière vous aura comblé, qu'elle vous aidera à passer une nuit pleine de beaux rêves. La prochaine émission, elle sera consacrée à une grande poétesse jeune et sensible qui s'appelle Mariani Faidi. Bonne nuit, nos chers auditeurs, bonne nuit. Et bonne écoute sur CFM.